16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les poètes disparus de l'histoire. Après Pierre de Ronsard et Serge Gainsbourg, Mathieu, l'heure de notre tranche de rire est arrivée. Vous vouliez nous parler de Robin Williams.
Ah oui, Stéphane, de la pure déconne en perspective, des barres de rire en cascade, du lol à foison, du PTDR à chaque étape de la biographie hilarante de cet acteur qui nous a bouleversés dans le cercle des poètes disparus et qui a fini par se pendre avec une ceinture H&M quand il a réalisé qu'il était atteint d'une maladie dégénérative rarissime, qu'aucun traitement ne pourra ralentir et que donc le suicide était la seule option s'il ne voulait pas finir comme un légume. Ah oui, vraiment, on va bien se marrer. Alors l'histoire est belle, ça finit bien. À ce curieux détail près, évidemment, qui, je le sens, vous a choqué, Stéphane, pourquoi une ceinture H&M ?
Donc en fait, il était pauvre ?
Pas forcément, Stéphane, il était peut-être tout simplement simple, je vous expliquerai.
Alors, Robin moi-même, Williams... j'ai une ceinture H&M au moment où
c'est
je
vrai.
Vous parle.
Vous pouvez le prouver ?
Oui, bien sûr.
Oui, oui, on va.
Vous allez ah non, c'est pas H&M, c'est Uniqlo.
Uniqlo,
j'ai compris,
c'est
la boutique
c'est
à côté.
Pas,
non,
c'est pas,
vrai,
non,
j'ai
vrai,
raison,
c'est
Stéphane.
C'est pas plus cher.
Je vous dis bravo. Alors, Robin Williams n'est plus, mais en revanche, il est toujours dans nos cœurs. Personnellement, je n'oublierai jamais le moment où j'ai appris sa mort. J'étais en train de manger un Kit Kat sur le parking d'une station Shell. Et je vous assure, Stéphane, que pour un homme de ma génération, perdre Robin Williams, c'est quelque chose. Avec David, on pensait que Robin Williams serait toujours là, comme un enfant suppose que ses parents sont toujours là, sauf que non. Car, vous le savez désormais, Stéphane, la vie est une...
Catin.
Exactement. Robin McLaurin Williams vient au monde à Chicago le 21 juillet 1951. Son père, Robert, est cadre chez Ford, et Laurie, sa maman, est une ancienne mannequin. C'est d'abord en cherchant à attirer son attention, puis celle de ses petits camarades de classe, que le jeune Robin, élève brillant, va développer ses dons d'humoriste. Il est le comique de la classe, mais aussi le premier. C'est pourquoi il envisage d'abord un cursus classique. Il commence à étudier les sciences politiques avant de se lasser et décrocher une bourse pour la prestigieuse Juilliard School de New York, le Harvard du spectacle, si vous voulez. Il fait partie des meilleurs élèves et devient pote avec Superman. Enfin, celui qui deviendra Superman, Christopher Reeve, qui dira de lui « Robin avait le débit d'une mitraillette. Je n'ai jamais vu autant d'énergie contenue dans une seule personne. Dire qu'il était à fond serait un euphémisme majeur. » En 76, Robin quitte New York direction...
La Californie.
À Los Angeles, dans les années 70, Robin écume les clubs de stand-up et se fait repérer. Avec son phrasé hyper speed et son don pour l'impro, il sort rapidement du lot, on commence à le voir sur les plateaux télé, puis il fait ses débuts dans la fiction, dans la série Happy Days. Où il incarne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un extraterrestre prénommé Mork. Oui, bon, ça c'est la version française. Personnage truculent qui débouchera sur un spin-off, le sitcom Mork and Mindy sera le terrain de jeu idéal pour Williams qui use et abuse de ses talents d'improvisateur. Les scénaristes laissent même délibérément des blancs dans le scénario pour qu'il puisse les remplir. Cette série sera son tremplin vers le cinéma et hélas aussi, c'est un package à l'époque, vers la cocaïne. La cocaïne, c'est Dieu qui vous dit que vous gagnez trop d'argent, dira Robin. Comme toutes les stars des années 70 qui se respectent, il aura droit à quelques séjours en rehab, mais... Est-on vraiment une star mondiale si on n'est pas passé au moins un petit séjour en désintox au cours de sa carrière ? Non, Stéphane, une séance d'hydrothérapie du côlon dans un hôtel spa de Saint-Malo, ça ne compte pas. Robin Williams justifie un peu ce recours aux drogues par l'insoutenable stress auquel est confronté alors le comique se livrant au stand-up. C'est un monde brutal. Un jour, ils sont au top, le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Parfois, ils deviennent aigris. Parfois, ils abandonnent tout simplement. Parfois, ils ont comme une épiphanie et ils tentent un comeback. Parfois, ils se brisent. La pression est constante, expliquait Robin. Difficile aussi de se concentrer quand vous enchaînez trois mariage, deux divorces et trois enfants. Sa carrière au cinéma décolle pourtant dans les années 80. Après Le Monde selon Garp, Robin décroche son premier rôle dans Good Morning Vietnam, où il incarne un militaire animateur radio haut en couleur. Barry Levinson, le réalisateur, lui donne carte blanche. La plupart de ses répliques sont de l'impro totale. À la clé, un film culte. Ce ne sera pas le seul, puisque le deuxième rôle marquant de Robin Williams n'est autre que celui de John Keating, le professeur d'anglais qu'on aurait tous voulu avoir dans Le Cercle des Poètes Disparus, qui fait partie de ces films qui peuvent changer une vie. C'est par exemple en le visionnant que je me suis fait la promesse de ne jamais devenir expert comptable, ni fonctionnaire à l'OCDE, c'est pourtant ce que mes parents voulaient. Il faut tomber sur le bon film au bon moment. Par exemple, si vous avez 15 ans aujourd'hui et que faute de cinéma, vous n'avez pour seul échappatoire fictionnel que Camping Paradis, question développement personnel, vous êtes baisé. Non, ne nous moquons pas des millénials, Stéphane, soyons charitables. Après avoir fait de nous des poètes, Robin nous a également émerveillés dans des films grand public, certes, mais où il apportait toujours sa touche d'originalité, comme Hook, ou Les Nouvelles Aventures de Peter Pan, ou encore Jumanji, où, piégé dans un jeu de société un peu trop réel, Robin fuit devant des animaux sauvages en s'écriant... Non, on n'a pas les droits d'auteur de Jumanji, Stéphane, s'il vous plaît. Robin fuit devant des animaux sauvages en s'écriant...
Gangourou, gangourou.
Voilà, on s'y croirait. Magnifique. Robin Williams, c'est aussi bien sûr le génie génial d'Aladin. un rôle pensé pour lui qui va pourtant refuser dans un premier temps. En effet, il ne veut pas être associé, Robin, au merchandising, pratique ultra lucrative lorsque Disney sort un film sur les écrans. Il finit par accepter sur certaines conditions. Je le fais pour mes enfants, mais le deal est clair. Je ne veux rien vendre, que ce soit chez Burger King ou ailleurs. Quelques mois plus tard, les figurines et les peluches à l'effigie du génie s'arrachent. Robin est furieux, envisage d'attaquer Disney, qui décide alors d'apaiser les tensions en lui envoyant quoi, d'après vous, Stéphane ? Une boîte de mon chéri ?
Un bouchèque ?
Un Picasso. Oui, voilà. Et un Picasso, étrangement, Robin se sent tout de suite plus à l'aise avec l'exploitation mercantile de son personnage et abandonne toute idée de poursuite contre Disney.
Prix,
évidemment. Comment ensuite ne pas évoquer Mrs. Doubtfire ? Simplement en ne l'évoquant pas, me direz-vous, mais je vais le faire quand même. Robin Williams joue un père divorcé qui se grime en une nounou d'un certain âge afin de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. C'est là une des performances d'acteur les plus éblouissantes de sa carrière et l'un des travestissements les plus drôles de l'histoire. Avec la fois évidemment où Poul s'était déguisé en Catherine Lara pour une enchoyade naturiste au Cap d'Agde.
Je suis la roqueuse de diamants.
C'était sympa aussi, hein. Bon. Toujours très investi dans ses rôles, Robin avait décidé de tester la crédibilité de son déguisement en entrant dans un sex shop habillé en Madame Doubtfire. Il a ainsi réussi à demander quelques conseils concernant un ustensile à deux bouts, juste avant d'être reconnu et de se faire sortir de la boutique. Il raconte cependant avoir pu acheter du lubrifiant parfumé. Ça sert toujours, vous le savez, Stéphane. Comique,
pourquoi
mais pas
vous
que.
Tournez vers
oui,
moi.
Enfin, j'aurais pu me tourner vers,
vers David.
Le lubrifiant, en tout cas, sert toujours, surtout s'il est parfumé. Comique, mais pas que. Robin Williams aura également prouvé qu'il était un grand acteur tout court sous la direction de Terry Gilliam et surtout dans Good Will Hunting, cet autre film culte, dans lequel il incarne un psychiatre qui encadre un jeune homme troublé, joué par Matt Damon. Rôle qui lui vaut enfin de décrocher l'Oscar, lui qui avait presque lâché l'affaire. Au bout d'un moment, il disait « Décrocher un Oscar, c'est aussi difficile que d'embrasser ses propres fesses ». Je vous laisse visualiser, c'est bien vu. Et j'offre à nos auditeurs, dans la grande tradition castellopienne, un fun fact sur le tournage de Good Will Hunting, qui en dit long une fois de plus sur les dons d'improvisateur de Robin Williams. Vous vous souvenez de la scène où Matt Damon se confie à Robin sur le fait de ne pas vouloir découvrir que la femme qu'il aime n'est pas parfaite ? Vous voyez cette scène ? Eh bien, cette scène est totalement improvisée. Dans le script original, son personnage est censé partager une anecdote sur la façon dont sa femme éteint son réveil la nuit, ce qui cause son retard au travail le matin. Eh bien, Robin, en fait, va beaucoup plus loin en racontant comment sa femme pète durant son sommeil, une fois si lourdement qu'elle en a réveillé le chien. Matt Damon lui s'attend pas du tout à ça, il suit le script et donc il est pris d'un fou rire bien réel puisqu'il a aucune idée de ce que son partenaire va venir. Les cinéphiles affirment même qu'on peut voir la caméra trembler un peu, nous indiquant que le cadreur aurait été embarqué lui-même dans le fou rire. Je sais pas si c'est vrai mais j'aime bien cette anecdote. Hélas, Robin Williams avait également une face plus sombre, plus angoissée. Il vivait dans la hantise d'être détrôné par un jeune loup de la comédie. Sa femme raconte notamment que la montée en puissance de Jim Carrey l'avait complètement effrayé. Alors oui, la dépression chronique, oui, la vie sentimentale dissolue, oui, les infidélités, oui, les problèmes cardiaques en 2009 qui interrompent sa tournée à guichet fermé, oui, un possible début de maladie de Parkinson qui l'aura gardé secret, oui, un comportement différent et qui inquiète ses proches, et oui, une démence que les médecins n'avaient pas diagnostiquée, une démence progressive qui provoque des hallucinations et 50 autres symptômes dont il souffrait, comme l'expliquera ensuite sa femme. Oui, la lucidité devant la progression de cette maladie baptisée maladie à corps de Lewy. Et oui, il s'est suicidé le 11 août 2014, non pas avec une ceinture H&M, c'était moins 1% faux, rassurez-vous Stéphane, c'était bien une ceinture Dolce Gabbana en croco, mais ça n'allège en rien le calvaire qu'il a vécu sur la fin. On peut remettre la musique Cirque, c'est vraiment fun. Ce n'est qu'à l'autopsie que les médecins comprendront qu'il souffrait de ce syndrome rarissime sous une forme d'une virulence rarement vue. « Je ne suis plus moi », disait Robin à ses proches quelques temps avant son décès. Il oubliait ses répliques, il se sentait traqué. La veille de sa mort, il croise un voisin tandis qu'il promène son chien. « J'ai vraiment besoin d'un câlin », lui confie-t-il. Son voisin s'exécute et le prend dans ses bras pendant que l'acteur fond en larmes. Vous le sentez les amis, on s'oriente vers le climax comique de ma chronique. Mais ça qu'on termine sur du pathos, Robin n'aurait pas aimé. C'est pourquoi je conclurai sur une note d'espoir. Si Robin Williams est mort, son esprit comique perdure à travers ses héritiers du rire, notamment chez nous, Stéphane Bern, stand-upper de génie, qui a l'art de nous faire rire même quand les nouvelles ne sont pas bonnes, comme hier en antenne.
Ça remonte les chiffres, non ?
Les chiffres de quoi ?
Du Covid, non ?
J'ai cru des audiences.
Ah, qu'est-ce qu'on se marre avec vous, Stéphane. Heureusement que vous êtes là pour remplacer Robin Williams.
Non, mais vous aussi. Merci, Mathieu. Donc, 99% vrai.
Ouais, à part la ceinture HM.
C'est la ceinture HM.
Tout est tristement vrai pour ce pauvre Robin Williams. Ouais. On a diagnostiqué cette maladie que post-mortem. C'est quand même
c'est
dommage.
C'est bizarre, cette histoire.
Ouais. En même temps, les docteurs disent qu'ils n'auraient rien pu faire. Donc, ouais. Quelque part...
Mais c'est terrible parce qu'il a dû se sentir en train de... De sombrer dans la...
Il s'est vu oui, parce qu'il avait des instants de totale lucidité, donc c'est le moment notamment...
Il n'était pas si vieux, quoi, c'est...
Pas du tout,
65,
pas du tout.
4 ans, non.
Ouais. Et je trouve qu'on a mis du temps à savoir ça. Enfin, à l'époque, on disait qu'il était dépressif et qu'il s'était suicidé comme ça, mais non, en fait, il avait une maladie avec des hallucinations. Ouais. Ah oui, c'est terrible. Oui.
Eh bien, merci, c'était triste et beau.
Europe 1, historiquement vôtre.